Vous avez étudié des choses aussi diverses que paix et sécurité internationale, l'économie et finance à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous avez également fait des relations publiques, un diplôme universitaire de technologie et relations publiques à Paris. Et donc, vous avez choisi de rejoindre la Fondation Sciences Citoyennes. Vous allez peut-être nous dire en deux mots la façon dont vous voudriez la présenter. Mais en fait, on va jouer un petit jeu. Donc, juste deux mots sur la Fondation et puis après, on va jouer un jeu.
D'accord. Donc, en fait, la Fondation Sciences Citoyennes s'est créée en 2002. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est en fait, à l'origine, vous avez des chercheurs, essentiellement donc des chercheurs... des professionnels de la recherche qui, à un moment donné, sont un petit peu émus de l'absence, en fait, du poids des citoyens dans les grands choix scientifiques et qui, justement, ont décidé de se réunir et de créer une association pour mettre le doigt sur ce problème précis et pour, de façon plus générale, questionner le rôle de la science dans l'évolution du monde. Voilà.
Maintenant, on va vous questionner, vous. Parce qu'en fait, je me dis, ça fait 3 ans que ce festival a lieu ici. Donc vous savez déjà un certain nombre de choses sur la Fondation Sciences Citoyennes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à Christophe Morvan? Soit sur la Fondation elle-même, soit sur le rôle des scientifiques, des citoyens. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Vous êtes venu, il fait terriblement chaud. Vous êtes venu pour assister à une soirée qui promet d'être longue et riche. Mais voilà, notre premier invité est là. Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Si vous voulez rien lui demander, je vous préviens, on arrête. Hein.
Vous avez une vingtaine de minutes pour, voilà, pour poser vos questions.
Alors allez-y, on vous écoute. Et vous, monsieur? Encore une? Encore une petite que j'ai vue et après vous commencez à répondre, Christophe.
Je voulais savoir si on s'inscrit à la Fondation, enfin, quel pourrait être notre rôle. Et moi, j'ai vu qu'elle était basée à Paris, donc moi, je viens de Montpellier. J'ai pas trop compris pourquoi je venais à Trescliou. Enfin, voilà, je suis pleine de questions. Je viens essayer de comprendre. Voilà. Et j'étais intéressée. Moi, j'ai rencontré, je vais pas retrouver son nom, celui qui a écrit le vélo. Voilà, mais chaque testard, j'ai été passionnée, c'est comme ça que j'ai découvert tout le système et que je suis arrivée à ce festival. J'ai envie d'agir, et est-ce qu'on peut agir en s'inscrivant dans cette association, enfin, fondation?
D'accord, bon, je vais essayer de répondre à cette première salve de questions. Votre question, madame, c'est où va-t-on? Bien écoutez, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire, mais en fait, le constat que nous avons fait, c'est qu'effectivement, la Fondation Sciences Citoyennes s'est aussi créée parce qu'elle a pris à un moment donné acte d'un certain nombre de crises, crise environnementale, crise sanitaire, et elle s'est aussi posé la question du rôle des chercheurs et de la recherche scientifique dans ces crises, et aussi dans la possibilité de contribuer à en sortir. Donc je ne peux pas vous dire où on va, mais en tout cas, nous, ce qu'on pense à la Fondation Sciences Citoyennes, c'est que la recherche scientifique pourra contribuer à un développement harmonieux du monde si, effectivement, elle intègre à un moment donné, à différentes étapes de la recherche, les citoyens, et si les citoyens peuvent eux-mêmes, à un moment donné, orienter les choix scientifiques en fonction de leurs besoins et non pas de besoins qui émaneraient du secteur commercial, de l'industrie, etc., etc.
D'où la deuxième question de monsieur, comment peut-on peser?
Alors comment peut-on peser? Si vous voulez, nous sommes une petite structure, nous sommes une structure qui réfléchissons et agissons, on peut appeler ça la recherche-action, et par exemple, on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement après-demain, puisque ça fera l'objet d'un quart d'heure de présentation. On essaye de travailler sur des mécanismes, et notamment sur des mécanismes, juridiques. Donc nous avons travaillé il y a quelques années avec un panel de constitutionnaliste pour mettre au point un mécanisme de décision qu'on a appelé les conventions de citoyens. Alors historiquement, ce mécanisme a une histoire. Au début, ça s'origine dans ce qu'on appelait conférences de consensus. Donc c'est un mécanisme qui a démarré aux États-Unis et qui concernait en fait des chercheurs dans le secteur médical qui se réunissaient et qui en fait ce processus visait à organiser une espèce de mécanisme de concertation entre eux. Après, il y a eu on passe en Europe et puis il y a les conférences de citoyens qui sont mises en place, notamment dans certains pays scandinaves. Et nous, on a étudié ces mécanismes-là et on est arrivé à un stade, supplémentaire où on s'est dit, voilà, il y a d'un certain côté des institutions politiques et de l'autre côté il y a des citoyens. Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver des mécanismes qui permettent, même si effectivement d'une certaine façon on délègue pour un temps donné un pouvoir de décision à un certain nombre de personnes, est-ce qu'on peut pas introduire des mécanismes qui de temps en temps va venir confronter ces institutions. Et donc on a
vous pourriez donner un exemple peut-être.
Oui, on peut donner un exemple si vous voulez sur un certain nombre de conventions qui ont été mises en place en France, notamment sur de conventions de citoyens, notamment sur les nanotechnologies. Et donc ce mécanisme vise à rassembler des citoyens dans leur diversité, avec une certaine diversité, et de leur permettre, en fait, de les former sur une problématique. Là, en l'occurrence, c'était les nanotechnologies. Ensuite, ce panel de citoyens est chargé d'auditionner différents chercheurs ayant différents avis, différentes opinions sur les nanotechnologies, ce que ça signifie, leur développement, leur impact, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ensuite, au bout du compte, ces citoyens ont rendu un avis. Voilà. Et la spécificité du modèle que nous on voudrait mettre en place, c'est que une fois que les citoyens ont rendu un avis, donc qui est un avis qui finalement pourrait s'imposer aux politiques, on a décidé d'ajouter une étape supplémentaire qui est le vote d'une résolution au Parlement, c'est-à-dire que l'avis est présenté aux parlementaires et les parlementaires sont chargés après un débat, de voter sur l'avis qui a été rendu par les citoyens. Et c'est une façon d'essayer de créer justement un mécanisme qui relève de ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire effectivement dans cette espèce de ronron régulier des élections, d'introduire effectivement des mécanismes qui à un moment donné obligent les élus à se pencher sur effectivement une opinion qui provient d'un groupe de citoyens.
Pour l'instant, ça reste de l'ordre du projet.
Ça reste de l'ordre du projet, mais effectivement, il y a, comme je l'ai décrit tout à l'heure sur les nanotechnologies, vous avez un certain nombre d'initiatives qui sont prises, soit par des collectivités locales, soit même par certaines entreprises, et qui relèvent en fait des conventions de citoyens. Même si nous, on a éprouvé le besoin de travailler avec des constitutionnalistes et de rédiger une loi, c'était justement pour border ce mécanisme et de faire en sorte qu'il soit, on ne peut pas dire irréprochable, mais qui répondent à des critères assez précis.
Oui, qu'ils puissent passer éventuellement dans la loi.
Voilà, exactement. C'est le but, effectivement, du travail de ces constitutionnalistes, c'est de présenter en fait un texte qu'on pourrait intégrer dans la législation française.
Alors ensuite, il y avait la question de madame sur et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors peut-être que pour répondre à cette question, vous pourriez parler d'une des réalisations que je trouve particulièrement intéressante de la Fondation, c'est les projets PICRI. Mmh. C'est une des façons dont les scientifiques peuvent aujourd'hui travailler différemment.
Voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est effectivement d'ouvrir la recherche, enfin d'essayer de permettre aux citoyens, à des citoyens et à des organisations de la société civile, de travailler avec des chercheurs sur des problématiques qui les concernent. C'est-à-dire que plutôt pour essayer de sortir d'un tête-à-tête industrie-recherche, hein, puisque c'est selon nous le cas actuellement, d'essayer d'introduire un certain nombre de mécanismes de collaboration entre des chercheurs et la société civile, sachant qu'après cette collaboration, elle peut s'exercer à différents niveaux, mais elle peut aussi s'exercer directement sur la définition de la question de recherche. C'est-à-dire, effectivement, un certain nombre de citoyens veulent une réponse à certaines questions, qui peut être une réponse à un problème local ou à un problème d'une autre dimension. Et cette collaboration, permet effectivement une entrée directe des citoyens dans le processus de recherche.
Là encore, vous pouvez donner 1, 2, 3 exemples, il y en a énormément. Il y a des projets tout à fait intéressants qui ont été montés.
Oui, tout à fait. Et on peut donner aussi je peux donner des exemples de mécanismes différents. Vous avez, qui relèvent de la recherche participative, vous avez ce qu'on appelle, nous, les boutiques de sciences. C'est effectivement une espèce d'interface entre justement des citoyens des groupes de citoyens qui auraient besoin d'une réponse à une question d'ordre scientifique. Et la boutique de sciences se charge de trouver effectivement les chercheurs compétents sur les questions qui intéressent ces citoyens et finalement de les réunir dans un processus de façon à ce que, au bout du compte, la question qui est posée par ce groupe de citoyens trouve une réponse. Donc ça, c'est les boutiques de sciences, c'est un élément de... un moyen qu'on peut utiliser dans le cadre de cette collaboration citoyen-chercheur. Après, bon, vous avez aussi d'autres mécanismes qui sont mis en place, par exemple, comme par le Muséum d'Histoire Naturelle, où vous avez effectivement des chercheurs du muséum qui déterminent... qui donne pour objectif aux citoyens d'aller chercher dans tels environnements, soit des plantes, soit de repérer des animaux, etc., etc., et d'en faire un compte-rendu aux chercheurs de façon à ce que ceux-ci utilisent ces résultats pour leur recherche. Alors ça, c'est une autre forme de recherche participative, et comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, effectivement, on a... Notre objectif, c'est que les citoyens puissent peser, y compris sur la définition des questions de recherche. Mais effectivement, cette initiative que j'ai prise en exemple du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est aussi une forme de recherche participative avec un degré de participation des citoyens qui s'exerce effectivement dans la collecte d'informations, dans la collecte de données.
Alors la première question, c'était où va-t-on ? Et la dernière question, c'était où êtes-vous ?
Alors... Donc ce qu'il faut voir, c'est que nous existons depuis une dizaine d'années, et effectivement cette initiative à l'origine est une initiative de chercheurs qui était plutôt basée en région parisienne. Notre présence ici, je crois, tend à démontrer qu'on aspire à autre chose que justement à... à cette espèce de confinement en région parisienne, et en même temps, bon... On s'appelle Fondation Sciences Citoyennes et il y a un aspect citoyen derrière. Et notre but, c'est aussi, de nous ouvrir, même si à l'origine l'association a été créée par des chercheurs, on veut à tout prix s'ouvrir aux citoyens. Et donc on a décidé, en même temps qu'on a développé une action au niveau de réseaux européens ou internationaux, on a décidé aussi de se développer sur le territoire français. Alors, on commence, on a des petits moyens. Actuellement, nous sommes 5 salariés. Nous avons un conseil d'administration de 25 administrateurs qui font un travail bénévole assez important. Mais la mobilisation pour pouvoir effectivement se développer sur les territoires est assez importante. Et en fait, on a décidé de s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire qu'ici, à Trescléou, on a effectivement 2 personnes qui sont à la tête d'une association, Kepper, qui ont décidé de se saisir de Sciences en Bobine, qui est un projet à l'origine proposé par la Fondation Sciences Citoyennes. Et Pierre et Jocelyne sont complètement libres de mettre en place Science en bobine à Trescléou, dans un cadre bon, qui correspond à un cadre qu'on a défini à l'origine, qui est bon, voilà, c'est un festival critique sur la science. Donc à partir de là, voilà, ils sont complètement libres de cette programmation. Et donc on compte s'appuyer sur ce type de projets, qui sont des projets qui sont proposés par la Fondation pour se développer dans les territoires. Et cette année, on va avoir donc au mois d'octobre un festival Science en bobine, parce que là, on est un peu en décalage par rapport à la date classique du festival qui se situe en général plutôt au milieu de l'automne. Et donc on... En fait, on va avoir un festival qui va se dérouler dans 8 villes, donc simultanément, si je me souviens, la deuxième et troisième semaine d'octobre. Et à l'inverse, on sait qu'on a aussi un certain nombre d'adhérents dans d'autres régions qui veulent effectivement faire quelque chose dans le cadre de la Fondation Sciences Citoyennes et disons se saisir de l'objet de la Fondation. Et là, par exemple, vous parliez de Montpellier, on devait organiser cette semaine, malheureusement ça ne va pas se faire, mais ce n'est que partie remise, une réunion avec nos adhérents de Montpellier et de la région pour pouvoir effectivement... on sait qu'on a une dizaine d'adhérents sur Montpellier, sur la région, et on sait qu'il y en a certains... Il y a un membre du conseil d'administration, notamment, qui est assez dynamique et qui voudrait effectivement développer localement une action de la Fondation Sciences Citoyennes. Nous, on dit « Ok, si on peut, au niveau du siège, au niveau des administrateurs parisiens, vous aider d'une certaine façon à développer soit la Fondation, soit par des projets existants, soit par d'autres projets que vous auriez, on en parle et on voit comment effectivement on peut mettre ça en place. On a aussi également des projets sur la région Nord-Pas-de-Calais, notamment sur l'île, avec un administrateur qui également voudrait mettre en place une boutique de sciences et peut-être plus sur la région de l'île. On est là, on aide à développer le projet, c'est-à-dire en cherchant des financements, en appuyant en fait le projet de cette personne qui est en fait une application de l'objet de la Fondation Sciences Citoyennes, mais dans la région de Lille. Alors on le fait petit à petit et en s'appuyant sur des forces qui existent, c'est-à-dire que on n'est pas là de Paris en disant on va se développer à tel endroit, non, on regarde ce qu'il y a, on regarde comment effectivement les adhérents réagissent, et si certains éprouvent le besoin ou l'envie de faire quelque chose dans le cadre de la Fondation, on est à leur écoute et on essaye, on discute et on essaye de mettre en place en fonction de leurs objectifs et des nôtres. Ah, tout à fait. À l'origine, c'est ce que je disais.
On peut, oui, être adhérent sans être chercheur.
Tout à fait. C'est, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'origine, effectivement, la Fondation a été créée par des chercheurs. Mais en fait, ces chercheurs se sont émus de l'absence des citoyens, dans le développement de les orientations scientifiques. Et justement, c'est à partir de ce constat que la Fondation s'est mise à travailler. Et effectivement, au contraire, mais on sait très bien que... Voilà, on est une petite organisation, on n'est pas très connu et que on bénéficie d'événements comme celui de Montpellier, cette conférence qui a été faite par Jacques Testard cette année. On bénéficie de manifestations comme celle-ci aujourd'hui dans le cadre de Science en Mobine et on essaye de s'appuyer sur ces manifestations pour se faire connaître et pour développer notre action.
Alors, oui.
Alors, nous sommes financés...
Vous entendez au fond ? Comment est financée la Fondation ?
Alors, nos financements, disons que on a mis en place une stratégie à long terme qui est une stratégie de diversification maximale de nos sources de façon à ne pas être dépendant d'une seule. Alors, actuellement, si vous voulez, on a un budget qui se situe autour de 260 000 euros. L'année dernière, on était à peu près à part égale, financement public et financement privé, sachant que dans les financements publics, vous avez des subventions du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez des financements pour un projet, des financements européens, qui est le projet d'ailleurs, le projet des boutiques de sciences, donc un financement de l'Union européenne. Vous avez aussi un financement du ministère de l'écologie, du ministère français de l'écologie. Ça, c'est pour ce qui concerne la part publique. Et pour la part privée, on a la chance d'être soutenu depuis la création par une fondation suisse qui s'appelle la Fondation pour le progrès de l'homme, qui est notre plus gros bailleur de fonds actuellement, puisqu'elle abonde notre budget environ de 30 à 40%. Dans nos financements, cette année, on compte aussi la Fondation de France pour ce qui concerne les financements privés. Et également, depuis assez récemment, une part, disons, significative des cotisations d'adhésion, mais qui ne représente pour l'instant que 6-7% de l'ensemble du budget. Mais c'est, disons, un financement qu'on va essayer de développer. Voilà. Sachant que juste notre objectif, c'est plutôt de nous développer sur la base de financement privé, de préférence de fondation, que sur la base de financement public, pour différentes raisons, et notamment pas forcément des raisons qui sont uniquement liées à un problème d'indépendance, puisque en fait, pour nous, l'indépendance, c'est la diversification vraiment très très importante des fonds. Mais il y a une telle bureaucratie, il y a une telle méfiance maintenant sur les dépenses d'argent public qu'on est contraint par de tels mécanismes qu'on passe plus de temps à écrire des projets et à faire des rapports sur ces projets qui sont financement sur fonds publics qu'à mettre ces projets en œuvre. Et du coup, pour nous, c'est un peu une aberration. Et je crois que d'ailleurs, les chercheurs eux-mêmes sont aussi soumis à cette même problématique sous forme d'appel à projets, etc., etc. Et nous, en tant qu'association, et ce sont les associations en général qui sont touchées par ce problème-là, on est aussi contraint par cette espèce de système qui relève des marchés publics et du fonctionnement idéologique dans lequel on est.
Jocelyne Mallet a une question ? Non, c'était pas une question.
C'était juste pour dire deux mots sur le fait qu'on fait un festival au mois d'août. Et pas au mois de novembre, bien qu'on risque de faire une petite session. Et en fait, on a appris le fonctionnement citoyen, on va dire, à partir d'Attaque. Nous, on était des militants d'Attaque au départ. Et on s'est rendu compte que les gens, et nous-mêmes, finalement, en essayant de nous exprimer, finalement, on s'exprime plus ou moins maladroitement. Mais si on tente la chose, malgré tout... Eh ben, c'est un apprentissage et on finit par comment dire, semer des petites choses comme ça. Avec la Fondation Science Citoyenne, il y a ce va-et-vient qui est assez agréable où on a l'impression qu'il n'y a pas les scientifiques complètement inaccessibles et le citoyen qui est complètement désarmé et qui n'ose pas. Ça, c'était agréable. Et du coup, quand on a proposé de le faire au mois d'août, c'est parce qu'en fait, on n'est pas à ville universitaire et en fait, on cherchait un moyen d'atteindre du public. Et là, tout de suite, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de directive. Et en même temps, il y a une coopération, une sorte de concertation. Et disons que une quaidam comme moi, c'est plutôt rassurant de se dire que on peut commettre des maladresses, mais en même temps, il y a toujours ce va-et-vient qui est possible. Voilà.
Et la bonne nouvelle, c'est que Christophe Morvan est tellement accessible qu'il sera de nouveau là.
Après-demain, puisque demain, en fait, le petit quart d'heure de la Fondation Sciences Citoyennes sera, mis en œuvre par Christian Vélo. Il vous parlera des lanceurs d'alerte et de la déontologie de l'expertise. Il est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, puisqu'il est chercheur lui-même. Et puis, il a été, à un moment donné, effectivement... lanceur d'alerte soutenu par la Fondation Sciences Citoyennes, puisque faisant suite à des positions qu'il avait prises, notamment sur les OGM, son université a voulu l'exclure. Donc c'est en partie grâce au soutien qu'on a pu mettre en place avec lui que je crois qu'il a réussi à stabiliser sa situation au sein de son université.
Donc préparez vos questions. Et maintenant, le film.